VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mardi 6 novembre 2018. En direct de Washington, Idrissa Seydoulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Mise en garde de la France contre toute manipulation intéressée en République centrafricaine.
Au Burkina Faso, 2 militaires ont été tués et 3 autres blessés hier soir dans le nord, près de la frontière malienne.
En Côte d'Ivoire, les agents des hôpitaux et des centres de santé publique ont entamé hier une grève de 5 jours.
Ici aux États-Unis, élection cruciale de mi-mandat aujourd'hui.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
La ministre française des Armées, Florence Parly, a mis en garde hier contre toute manipulation intéressée de puissances opportunistes en République centrafricaine. Il s'agit là d'une allusion à peine voilée à la Russie, faite hier au Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Le point avec Nani Talani.
Les violences intercommunautaires régulières nous rappellent que les équilibres restent fragiles dans ce pays. Dans ce contexte, toute manipulation intéressée de puissance opportuniste serait inepte, indigne, a déclaré Florence Parly en référence à l'influence grandissante de la Russie en RCA, sans toutefois la citer nommément. La France critique vivement la tentative russe d'engager des pourparlers de paix entre groupes armés concurrents aux efforts de l'Union africaine. Pour Florence Parly, il faut apporter tout le soutien à l'Union africaine pour préserver toutes les chances d'un règlement rapide et pacifique de la crise. Elle assure que tous les efforts internationaux sont bienvenus pour sécuriser la République centrafricaine, mais il faut que cela se fasse dans le respect des résolutions des Nations Unies et dans le respect de la médiation de l'Union africaine. Elle a martelé que toutes les autres initiatives opportunistes et souvent intéressées ne paraissent pas contribuer à résoudre de façon positive la situation sécuritaire dans ce pays.
Pour sa part, le prédécesseur de Florence Parly, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, a effectué avant de se rendre à Dakar une visite éclair hier à Banjul. Cette visite visait à marquer, je cite, le soutien de la France à la consolidation de la démocratie en Gambie, près de 2 ans après le départ en exil de son ancien homme fort Yahya Jammé. Lors de sa visite de quelques heures, le chef de la diplomatie française s'est entretenu avec le président Adama Barrow, qui a succédé en janvier 2017 à M. Diamé, resté 22 ans au pouvoir.
Au Burkina Faso, 2 militaires ont été tués et 3 autres blessés hier soir à Nansoumbou, dans le nord près de la frontière malienne, quand un véhicule de l'armée a sauté sur un engin explosif artisanal, selon des sources sécuritaires. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est le théâtre d'attaques djihadistes régulières depuis 2015. Le nord et l'est du pays sont particulièrement touchés et Ouagadougou, la capitale, a été frappée à 3 reprises.
En Côte d'Ivoire, les agents des hôpitaux et centres de santé publique ont entamé hier une grève de 5 jours pour réclamer de meilleurs salaires. Le point avec Raissa Girondin.
Les 2 tiers du personnel de santé, les infirmiers, aides-soignants, sages-femmes, techniciens et agents administratifs sont en grève. Selon Sila Vazoumana, responsable de la communication de Cordis Santé, fédérant plusieurs syndicats, 9 centres de santé publique sur 10 sont touchés, dont les centres hospitaliers universitaires d'Abidjan et les grandes villes. Cependant, un service minimum était assuré pour les blocs opératoires et les salles d'accouchement. En revanche, les médecins n'ont pas appelé à la grève et étaient à leur poste de travail, selon Guillaume Soak PC, secrétaire général du premier syndicat de la profession. Les agents de santé réclament des augmentations de salaire et des primes, ainsi que l'amélioration de leur statut. La Côte d'Ivoire connaît depuis 2 ans des grèves fréquentes dans la fonction publique, principalement pour obtenir des augmentations salariales et de meilleures conditions de travail.
La Mauritanie a dénoncé hier la décision américaine de lui retirer le statut de partenaire commercial privilégié en Afrique. D'après Washington, c'est en raison de la persistance des pratiques de travail forcé et d'esclavage héréditaire. Des détails avec Morgane Guiriec.
Cette décision est une trahison des relations d'amitié entre les deux pays et une négation de nos efforts dans le domaine de l'éradication des pratiques esclavagistes, a déploré sur Twitter Mohamed Ould Maham, porte-parole du gouvernement mauritanien. Monsieur Trump aurait-il pris cette décision s'il s'attendait à un contrat de vente d'armes de 110 milliards de dollars avec nous? A-t-il ajouté en référence aux commandes militaires saoudiennes évoquées par le président américain pour expliquer sa réticence à suspendre les ventes d'armes à Riyad après l'affaire Khashoggi? Ce retrait de l'AGOA sera effectif au 1er janvier prochain. Selon Washington, la Mauritanie n'a pas fait assez de progrès dans la lutte contre le travail forcé et l'esclavage héréditaire. L'esclavage a été officiellement aboli en 81 en Mauritanie. Le pays a adopté en août 2015 une loi faisant de l'esclavage un crime contre l'humanité réprimé par des peines allant jusqu'à 20 ans de prison. La portée de la décision américaine est essentiellement symbolique vu le faible volume des échanges entre les deux pays.
En Tunisie, le premier ministre Youssef Chahed, sous pression à l'approche d'échéances électorales, a annoncé hier soir un remaniement attendu de longue date qui vise, selon lui, à sortir de la crise politique. Mais la présidence de la République a fait savoir qu'elle n'approuvait pas ce remaniement, signe que la classe politique tunisienne reste profondément polarisée par une forte lutte pour le pouvoir à l'approche des élections législatives et présidentielles prévues en 2019.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les Américains se rendent aux urnes aujourd'hui pour les midterms, les élections dites demi-mandat. Sur le terrain, démocrates et républicains multiplient leurs efforts pour remporter ces élections, chacun de son côté. Les précisions d'Irénée Herman Umbo.
Le président américain Donald Trump a jeté toutes ses forces dans la bataille. Hier, il était à Cleveland, dans l'Ohio, Fort Wayne, à Indiana, puis à Cap Girardeau, dans le Missouri. Démocrates et républicains ont multiplié leurs appels à la mobilisation. « Allez voter », a demandé Donald Trump lors de son quatrième meeting dans le Tennessee. Son prédécesseur, démocrate Barack Obama, depuis Indiana, a indiqué de son côté que c'est l'âme même de notre pays qui est en jeu. Les démocrates qui espèrent prendre leur revanche sont donnés favoris pour reprendre le contrôle de la Chambre des représentants, tandis que les républicains devraient conserver la majorité au Sénat. Les élections de mi-mandat traditionnellement n'ont jamais été favorables au président en place. Les démocrates sous Barack Obama avaient ainsi subi une cuissante défaite. La perte de la Chambre, malgré d'excellents chiffres de l'économie américaine, pourrait être un revers pour Donald Trump.
Le président du Honduras, Juan Orlando Hernández, et son homologue du Guatemala, Jimmy Morales, sont convenus lundi de s'attaquer aux causes poussant leurs citoyens à quitter leur pays en caravane en direction des États-Unis et de poursuivre ceux qui favorisent ces migrations. Monsieur Morales s'est rendu au Honduras pour élaborer avec son voisin un plan d'action afin d'éviter ce genre de situation que n'a cessé de dénoncer le président Donald Trump dans ses meetings politiques et tweets. Les deux présidents se sont mis d'accord sur la nécessité d'investir dans leur pays pour créer des opportunités d'emploi et ils ont lancé, je cite, une vigoureuse invitation aux investisseurs tant nationaux qu'internationaux.
Les États-Unis ont rétabli hier les sanctions draconiennes affectant ces secteurs pétroliers et financiers. Ces mesures sont conformes à l'engagement pris par le président Donald Trump à la suite au retrait américain de l'accord des grandes puissances avec Téhéran sur le nucléaire iranien signé par son prédécesseur Barack Obama. Monsieur Trump a cependant dit qu'il voulait y aller doucement quant aux sanctions éventuelles contre les grands importateurs de pétrole iranien. Je pourrais ramener le pétrole iranien à zéro immédiatement, mais je ne veux pas créer un choc sur le marché, je ne veux pas faire monter les prix, a expliqué le président Trump.
Le maire de Paris, Anne Hidalgo, et le président des Républicains ont demandé hier, dans des messages séparés, aux autorités françaises d'intervenir pour sauver la vie de la Pakistanaise Asia Bibi. Cette chrétienne a été condamnée à mort pour blasphème, puis acquittée par la Cour suprême du Pakistan, mais elle reste emprisonnée. Anne Hidalgo a souligné qu'elle est prête à accueillir Asia Bibi ainsi que les membres de sa famille dans la capitale française. En 2014, la mairie de Paris avait attribué à Madame Bibi la citoyenneté d'honneur pour contribuer à la protéger.
La Chine est interrogée ce mardi par les pays membres de l'ONU sur son programme d'internement de citoyens musulmans, un programme de plus en plus critiqué dans le monde. Près d'un million d'Ouïghours et autres membres d'ethnie chinoise de langue turque sont ou auraient été ainsi détenus dans le Xinjiang, dans le nord-ouest du pays, selon des estimations citées en août par un groupe d'experts de l'ONU. Dans le cadre de l'examen périodique universel prévu pour les 193 membres des Nations Unies, la Chine présente à l'ONU à Genève un rapport sur la situation des droits de l'homme chez elle et les changements depuis son dernier rapport en 2013. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement entend électrifier 5000 villages d'ici la fin de l'année 2018, d'après le ministre ivoirien du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, Thierry Tano. À la fin de l'année 2017, 4600 villages sur 8000 étaient électrifiés. À la fin de cette année, plus de 5000 localités pourraient l'être. La Banque mondiale octroie 35 millions de dollars au Ghana pour soutenir les réformes visant à améliorer l'efficacité et la responsabilisation dans la prestation des services publics. Il s'agit de la délivrance de passeports, de permis de conduire et l'immatriculation des véhicules, la délivrance de permis environnementaux pour les particuliers et les petites et moyennes entreprises, l'enregistrement des naissances et des décès et la délivrance du permis de séjour. Le projet améliorera l'accès, accélérera la prestation des services et réduira la corruption. Les fonds sous forme de capital risque levés par des start-up africaines augmenteront de plus de 100% et atteindront 1 milliard de dollars d'ici la fin de l'année 2018, d'après Africa Arena. Entre 2050 et 2100, il y aura plus de 50 villes de plus d'1 million d'habitants sur le continent africain. Ce facteur conduira à une augmentation des investissements. Les nouvelles entreprises de technologie africaines dépasseront la barre des 10 milliards de dollars par an au cours de la prochaine décennie.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le PSG joue son avenir européen en Ligue des Champions ce soir à Naples.
Deux semaines après le nul miraculeux 2-2 arraché au Parc des Princes grâce à un exploit d'Angel Di Maria, dans le temps additionnel, les hommes de Thomas Tuchel n'ont plus droit à l'erreur. En cas de contre-performance en Italie, Paris, troisième de son groupe avec 4 points, derrière Naples et Liverpool, aura quasiment dit adieu à la Ligue des Champions cette saison. Les Parisiens pourront compter sur le retour du capitaine Thiago Silva précédemment blessé et du défenseur Presnel Kimpembe, suspendu en championnat. En plus, Tuchel a un renfort de poids, Gianluigi Buffon. La recrue star sera titularisée dans les buts parisiens.
Toujours en Ligue des Champions, vague de forfaits pour l'Atlético Madrid.
Oui, le milieu offensif de l'Atlético Madrid, Thomas Lemar, souffre d'une blessure musculaire et sera forfait ce soir contre Dortmund. Le club colchonero sera aussi privé des défenseurs Diego Godin et Stefan Savic, du milieu Koke et de l'attaquant Diego Costa. L'Atlético, qui rêve de disputer la finale dans son propre stade en juin prochain, espère prendre sa revanche sur Dortmund pour effacer la gifle 4-0 reçu à l'aller en Allemagne.
Ligue des Champions aussi en Afrique, Walid Azaro va rater la finale retour.
Oui, la commission de discipline de la CAF a sanctionné de 2 matchs de suspension l'attaquant d'Al Ahly. Il a été pris par les caméras du match en flagrant délit de déchirement de son maillot pour influencer la décision de l'arbitre sur une faute qui n'en était pas véritablement une. Walid Azaro manquera donc la finale retour ce vendredi face à l'Espérance sportive de Tunis, un coup dur pour le national. À l'aller il y a quelques jours, le Marocain a été déterminant, provoquant 2 pénaltys pour son équipe, qu'il a finalement emporté 3-1. C'est d'ailleurs sur l'une des fautes obtenues qu'il a été sanctionné. Outre sa suspension, Azaro a écopé d'une amende de 20 000 dollars.
La RDC avec Mputu contre le Congo.
Le duel Congo-RDC s'annonce décisif à la faveur de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Pour l'occasion, Florent Ibenge, le patron des Léopards, a dévoilé sa sélection avec une présence remarquée de Trésor Mputu. On note aussi le retour de Youssouf Moulumbu. Pour le reste, c'est du classique. La RDC est deuxième de son groupe avec 5 points derrière le Zimbabwe, 8 points. Le Congo a 4 points et le Libéria, 1 point. NBA, pour finir, avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
Miami et Détroit, 120-115. Houston et Indiana, 98-94. Deux autres matchs serrés, Orlando 102 et Cleveland 110. Chicago 116 face à New York 115. Oklahoma City et la Nouvelle-Orléans 122 à 116. Denver 115 et Boston 107. Toronto bat Utah 124 à 111.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sidoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, on n'a pas fini de parler de cette vague d'enlèvement dans la région du Nord-Ouest en zone anglophone. 82 personnes, dont 79 élèves, un enseignant ainsi que le chef de l'établissement et un chauffeur, ont été kidnappés hier à Bamenda par des hommes armés non identifiés. Le gouvernement pense qu'il s'agit des Ambazoniens. C'est le deuxième acte d'enlèvement en moins de 48 heures dans le nord-ouest du Cameroun, enlèvement qui est intervenu à la veille de la prestation de serment du président Paul Biya. John Lyndon a joint le colonel Didier Badjek, porte-parole du ministère de la Défense du Cameroun.
Il ne fait l'ombre d'aucun doute que ce sont les séparatistes qui ont enlevé ces enfants. De toutes les manières, ils ont déjà produit une vidéo où ils restent dans leur lancée obscurantiste. Et ce n'est que pour démontrer ce que nous avions toujours voulu démontrer, mais ce qui était contesté de manière assez violente, même, n'est-ce pas, par vos canaux vous-même. On vous disait que c'était des terroristes et qu'il fallait les traiter comme tels.
On constate tout de même que cet enlèvement intervient à la veille de la prestation de serment du président Biya. Est-ce qu'il y a un message que ces Ambazoniens, comme vous les appelez, veulent transmettre? Si oui, lequel?
Nous savons que ce sont des gens qui multiplient des actes, des exactions sur le terrain et que je pense qu'ils ne cherchent que des opportunités. Je crois que cela ne peut pas avoir, pour ma part, une connotation politique. Et même si ça en avait une, vous savez très bien que je suis militaire et que je n'ai pas le droit de m'exprimer sur des questions politiques. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est que ces derniers temps, quand même, ils sont harcelés. Moi, j'ai pu voir la vidéo qu'ils exposent. Ce sont des barbares, tout simplement. Dans cette vidéo, ils expriment que les enfants n'iront plus à l'école et que l'école va commencer ici. Vous sentez des gens qui sont barbares. Et je me demande si jamais ils voulaient vraiment diriger leur soi-disant Ambazonie, avec quelle perspective ils le feraient. Non, c'est un mouvement qui est tout simplement un mouvement terroriste. C'est ce qu'il faudrait comprendre. Et il faudrait qu'on puisse ramener le calme, la paix, et c'est ce que les forces de défense essayent de faire pour le moment.
On a vu les forces armées camerounaises faire face, n'est-ce pas, à la menace de Boko Haram. Est-ce que c'est un autre front qui s'ouvre dans la partie anglophone du Cameroun?
Ça fait depuis quand même que nous combattons ces séparatistes qui ont des renforts certainement qui viennent de l'étranger. Nous neutralisons ces derniers temps mercenaires. Et je dois donc vous dire que c'est un autre front et que l'armée camerounaise est effectivement à cheval sur plusieurs zones chrysogènes, en l'occurrence l'extrême nord, l'est, avec les menées rebelles de la crise centrafricaine. Je vous parle également de ce qui se passe au niveau du plan d'eau, monsieur, dans l'océan Atlantique, avec la piraterie maritime. Et maintenant, ils s'additionnent également à ces mouvements irrédentistes. Donc, heureusement que l'armée camerounaise, menace protéiforme, est une armée qui est polymorphe et réussit, n'est-ce pas, à proposer des réactions appropriées pour pouvoir garder la sécurité et l'intégrité territoriale de notre pays.
Le colonel Didier Badjek, porte-parole du ministère de la Défense du Cameroun.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les migrants en situation irrégulière continuent de quitter l'Angola sous la menace des autorités qui leur ont donné un ultimatum. Actuellement, 30 000 Maliens vivent en Angola. Et selon le ministre des Maliens de l'Extérieur, au moins 74 d'entre eux sont détenus par les autorités angolaises, un nombre qui pourrait être bien plus élevé. Bagassi Koura a joint le ministre Yaya Sangaré à Paris.
Il y a des Maliens qui sont en Angola aujourd'hui, qui sont en difficulté. Et les chiffres aussi, ce dont on dispose, ça évolue. Hein, parce que l'opération qui est en cours en Angola a commencé depuis un certain moment. Les chiffres que nous avons à partir de notre ambassade et du comité de base des Maliens établis en Angola donnent à peu près aujourd'hui à la date où je vous parle. Et à peu près 74 personnes qui sont dans des centres de détention en Angola de part et d'autre, dans les provinces et au niveau du Luanda. Aujourd'hui, la situation est assez préoccupante, mais elle n'est pas désespérée, parce que l'ambassade sur place est en train de gérer un rapport avec les responsables des associations qui ont en charge la gestion des Maliens sur place là-bas. Et ils sont en train de donner la bonne information dans le cadre de la circulation des Maliens à l'intérieur de l'Angola et des points de discussion également pour mettre en sécurité non seulement l'LP, mais les personnes. Et toutes les informations utiles sont données. Et le gouvernement, il y a un comité de veille qui existe en Angola. Il y a également un comité de crise qui a été créé à Bamako. Donc, on est bien fait partager les informations. Et nous faisons en sorte que tous ceux qui sont en situation irrégulière puissent réduire leur mouvement, je dirais, et ceux qui sont en train d'exercer également les activités dans l'illégalité pour qu'ils se mettent en règle. Et les négociations sont en train de négocier avec les autorités angolaises pour que si les mesures devaient être appliquées, que ça s'applique dans le respect des droits humains et dans le respect de la dignité des communautés étrangères qui vivent en Angola.
Pour le cas de la Libye, on a vu des vols spéciaux. Est-ce que ça s'est envisagé dans ce cas?
On est en train d'imaginer tous les cas de figure. Mais pour le moment, on n'est pas arrivé à la situation de la Libye justement parce que pour le moment, nos estimations montrent qu'il y a environ près de 30 000 Maliens qui sont en Angola. Et les victimes, ceux qui sont victimes de l'opération, ils n'atteignent pas les 100 personnes. Donc on ne peut pas tout de suite envoyer un avion pour moins de 60 personnes. D'autant plus que nous travaillons déjà avec des partenaires qui sont prêts à mettre à la disposition du Mali des délégations pour que ces gens-là puissent prendre pour les réguliers.
Et est-ce qu'on sait s'il y a des structures d'accueil au Mali pour ceux qui rentrent, notamment pour leur insertion?
Oui, au Mali, il y a déjà, je crois, un an, il y a moins d'un an que notre président a inauguré ce qu'on appelle le Mali, la cité, l'accueil des Maliens des Sœurs. Vous avez compris qu'avant, quand le Mali a patrouillé les compatriotes en tout cas, ça a assuré, que ce soit le cas de la Libye, de l'Algérie, de la Centrafrique, les gens les ont vu entasser vraiment dans des conditions pas humaines, dans des salles de classe abandonnées ou sous des mangliers ou des arbres. Mais aujourd'hui, grâce à l'engagement du gouvernement et du président de la République, on a pu construire une cité d'accueil. On a aujourd'hui à peu près plus de 200 lits disponibles. Donc, chaque fois que les Maliens sont rapatriés, donc ils sont accueillis à l'aéroport, ils sont orientés au niveau de ce centre d'accueil. Et ils ont droit à passer 3 jours là-bas au frais de l'État avec ses partenaires. Et en plus de cela également, ils sont dirigés pour savoir ce qu'ils ont appris à l'ESE et ce qu'ils comptent faire une fois rentrés chez eux.
Yaya Sangaré, ministre des Maliens de l'Extérieur.
Restez branchés 24/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Madagascar se prépare à élire demain son prochain président. 36 candidats sont en lice, dont 3 anciens chefs d'État. Ce pays, il faut le dire, a traversé plusieurs crises politico-militaires ces dernières années. Pour une analyse, Morgan Guiriec a joint le directeur de l'Institut d'études politiques de Madagascar, David Rajan.
Peut-être que pour la première fois en Madagascar, il y aura une élection en bonne et due forme. Et bien évidemment, on espère qu'il y aura un président qui sera élu et que tout de suite après, il n'y aura pas encore une crise politique.
Justement, à quelques jours du vote, quelle est l'ambiance?
On craignait au début en fait que l'élection allait être reportée parce qu'il y a des candidats qui le réclamaient. On craignait également qu'on se verserait dans la violence. Mais jusqu'à aujourd'hui, en fait, tout se passe normalement, une ambiance de campagne électorale avec des effets un peu festifs, mais également avec des échanges un peu virulents. Mais on a aussi remarqué que les candidats se pliaient au jeu démocratique, c'est-à-dire, entre autres, pour la première fois, il y a des passages de tous les candidats dans des débats télévisuels.
Vous êtes optimiste?
Euh, optimiste en termes, je dirais, sur le jeu démocratique, mais toujours est-il qu'il y a un risque de glissement vers une contestation électorale, tout simplement parce qu'il y a trop d'enjeux, je dirais, personnels autour de cette élection, entre les anciens candidats. Je rappelle qu'il y a quand même 4 anciens présidents de la République se présente à cette élection.
Transparency International parle notamment de vote acheté, d'autres dénoncent des irrégularités dans les listes. Que dire de la crédibilité de ce vote ?
Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de liberté d'information. Il y a aussi l'effet des médias sociaux. Donc tout le monde s'exprime avec Internet. On reporte facilement des irrégularités qu'auparavant. Il y a quand même une amélioration de cette fameuse liste. On dénombre 1500 anomalies reportées par ces mêmes candidats. Bon, 1500 sur 9 800 000, je pense que quand même, on ne peut pas trop dire qu'il y a beaucoup de fautes de la part de la Commission.
C'était David Rajon, directeur de l'Institut d'études politiques de Madagascar.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Ici aux États-Unis, élection cruciale de mi-mandat aujourd'hui pour le contrôle du Congrès. Les démocrates veulent prendre le contrôle du législatif pour freiner l'agenda du président Trump. Et les républicains cherchent, eux, à maintenir leur majorité au Sénat et à la Chambre des représentants pour continuer à soutenir la politique du président américain. John Lindon a joint ici à Washington Brett Brune, président du think tank Global Situation Room.
C'est un moment dans lequel le peuple américain va prendre une décision si la voie que le président Trump a choisie pour notre pays, c'est la voie correcte, ou bien est-ce qu'on devrait changer un peu vers une balance entre les républicains et les démocrates.
Alors justement, les républicains détiennent actuellement le Sénat et la Chambre des représentants. Quelles sont les chances des démocrates de récupérer l'une de ces chambres ou toutes les deux?
Bien sûr, nous avons eu l'expérience il y a 2 ans quand les sondages indiquaient que peut-être Hillary Clinton va gagner. Mais cette fois-ci, les indications sont que les démocrates, au moins, vont prendre la Chambre des représentants. Et il y en a des gouverneurs qui pourraient changer. Pour le Sénat, c'est beaucoup plus difficile à cause du fait qu'il faut défendre beaucoup plus de membres de leur parti dans ces élections.
On a vu à la fois Donald Trump et l'ancien président Barack Obama se lancer dans la campagne pour soutenir des candidats de leur parti. C'est une première ou ça, on a souvent vu ça? Qu'est-ce que cela implique?
Pour les anciens présidents, souvent, ils sont restés à côté de la politique quotidienne, mais souvent, ils participaient dans les élections pour leur parti. Cette fois-ci, je crois que ce que nous avons vu avec la présence prominente du président Obama, c'est que pour l'instant, on n'a pas vraiment une personne qui représente le Parti démocrate. Alors, il faut que M. Obama reprenne ses fonctions comme le représentant de son parti, au moins pour les prochains mois.
Alors, on a reproché à Donald Trump de ne pas battre campagne sur l'économie qui se porte très bien en ce moment. Il a plutôt préféré l'immigration. Pourquoi ce choix?
Parce que sa politique, c'est une politique de peur, c'est une politique de division et il a utilisé cette politique pour motiver sa base, ses partisans. Et malheureusement, on peut dire qu'il y en a des différences après plusieurs semaines de cette politique assez agressive dans l'énergie au côté républicain. En même temps, je crois que ça va être plus difficile pour lui dans les prochains mois parce qu'il a vraiment pris une position assez extrême.
Joint ici à Washington, Brett Brune, président du think tank Global Situation Room.
Mmh.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi à 19h05 temps universel. Le monde au féminin. Une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous. Le monde au féminin. Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05 temps universel sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.